Histoire d'archives revient pour notre plus grand bonheur, enfin j'espère que ce sera régulier, avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes accompagné aujourd'hui ?
Je suis avec Céline Bonnard, hein, donc, qui est la directrice adjointe des archives départementales et donc qui vient pour la première fois donc, ici pour évoquer donc, notre programmation.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de répression allemande.
Oui, tout à fait, puisque donc la semaine prochaine, donc le jeudi 16 février, je fais une conférence donc à la Javi à 18h, justement sur le sujet de la répression allemande. Alors c'est un sujet qu'on a balayé depuis assez longtemps maintenant, puisque en 2012, nous avions commencé à travailler sur Vichy et les Juifs, donc hein, sur la question évidemment des rafles, en particulier de la rafle d'août 1942. Et puis ce thème nous a amené donc sur un autre sujet qui était celui justement de la répression allemande. Et on était en fait, avec quelques agents des archives hein, qui travaillaient aussi sur le même thème, on était très étonnés de découvrir dans les documents la mention donc évidemment des Allemands hein, qui agissaient, mais aussi de Français qu'on appelait miliciens. Or, quand on regardait nos archives, on ne trouvait jamais, hein, dans tout ce qu'on possédait, de documents qui attestaient donc de l'action. On avait des miliciens dans le département, évidemment, mais c'était très peu nombreux, mais de l'action de miliciens. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est penché un peu sur le problème. Et on s'est rendu compte que ceux qui agissaient donc avec les Allemands étaient en fait des Français qui appartenaient à une compagnie très particulière. Cette compagnie, donc, c'est la 8e compagnie Brandebourg, qui est donc une compagnie qui a pour mission de détruire les maquis, et qu'on voit agir pour la première fois donc dans la nuit du 4 au 5 décembre à Bannon. C'est la première vraiment attaque contre les maquis. Alors, il faut toujours s'imaginer que une action contre les maquis, c'est une action composite. Vous avez des Allemands de la Wehrmacht, hein, de la R, en fait, hein, donc de l'armée de terre, mais vous avez aussi quelquefois des Feldgendarmes, hein, donc des gendarmes des champs, en fait, hein, qui sont eux spécialisés dans le renseignement, mais aussi dans la répression. Vous avez aussi quelques agents de ce qu'on appelle encore toujours la Gestapo, hein, qui est en fait en réalité la CIPO-SD, hein, qui est une mais qui sont très peu nombreux dans le département. En fait, ils sont à peine 5 ou 6, voyez, donc, mais il y en a toujours un ou deux qui est là pour assister ou pour participer à ces actions. Et puis, il y a donc ces fameux Français de la 8e compagnie Brandebourg qui agissent. Alors, c'est assez compliqué, évidemment, de les repérer, puisque par définition, comme ils appartiennent au service secret de l'armée allemande, hein, de l'Abwehr, par définition, ils sont difficiles à repérer, puisqu'ils se cachent. Hein. Par exemple, les gens qui les côtoient se rendent compte qu'en fait, ils ne portent jamais aucun insigne. On ne sait pas à quelle unité ils appartiennent. Et donc, ils sont toujours très étonnés d'avoir des individus qui portent des uniformes allemands, mais qui sont, en fait, qui parlent français, voire qui parlent même le provençal, hein, ou le niçois, pour certains d'entre eux. Donc, évidemment, tout ça est très choquant. Sans compter qu'eux-mêmes jouent avec ça. Hein, c'est-à-dire que souvent, ils se moquent de ceux qu'ils ont arrêtés ou de ceux qu'ils côtoient en disant, vous voyez, on est avec les Allemands, mais on est français, on est comme vous, voyez, etc. Alors, dans cette action, on a donc la première action à Bannon. C'est une action qui est très importante parce que alors elle a lieu donc en décembre 43. Alors il faut se rappeler que après le 11 novembre 1942, hein, la zone dite non occupée, dite libre, est en fait occupée par les Allemands, enfin en partie par les Allemands, et dans les Basses-Alpes, ce sont les Italiens qui vont faire l'occupation. Les Italiens se retirent en septembre 1943. Et ils sont donc remplacés par les Allemands. Et donc les Allemands, c'est eux qui vont être chargés donc de la répression des maquis. Alors l'action à Bannon, en fait, elle est double. Elle vise à la fois les maquis, hein, donc les quelques maquis qui sont constitués, mais elle vise aussi des personnes qui appartiennent donc à la résistance, mais qui sont de la résistance civile, donc la résistance non armée, ceux qui sont donc qui habitent dans, à Bannon même ou à Redortier, etc. Hein, donc on a une double action qui se passe dans la nuit et les témoins racontent les témoins, mais aussi les rapports de gendarmerie et de police, racontent que à peu près 80 soldats allemands sautent des camions. Il y a aussi deux voitures, donc vraisemblablement une occupée par des agents de la Gestapo, qui vont donc procéder à ces arrestations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette arrestation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Car en fait, avant cette action armée, hein, qui va conduire ces hommes arrêtés en déportation pour l'essentiel, dont certains ne reviendront pas d'ailleurs, et il y avait aussi un juif qui a été, lui, fusillé, parce qu'il était juif. Ces Allemands, en fait, ont préparé en fait cette action par la création d'un faux maquis, justement organisé par un soldat de la Brandebourg, hein, ce qui était aussi leur façon de travailler. Et donc ce faux maquis, ce personnage vient avec une femme, hein, qui, alors tout le monde l'a décrit comme une belle blonde, qui va d'ailleurs retourner, faire parler, vous voyez, parce que ce sont des Français en fait, hein, faire parler les uns et les autres pour essayer de déterminer où sont les maquis. Lui-même va donc créer un maquis. Alors il faut se rendre compte que les maquis en fait sont constitués de réfractaires, donc de jeunes gens qui ne veulent pas aller au service du travail obligatoire, hein, ce qu'on appelle le STO, et donc qui n'ont aucune expérience militaire, qui sont un peu, qui sont très jeunes. Évidemment, et qui sont un peu naïfs d'une certaine manière, vous voyez, par rapport à des gens qui sont des spécialistes de l'infiltration, du combat, etc. Et donc cet homme va donc créer ce maquis, va donc repérer tous les maquis environnants, et donc va pouvoir renseigner ceux qui vont agir, donc cette fameuse nuit du 4 au 5. Lui-même, d'ailleurs, revient, mais avec un uniforme allemand. Et quand l'opération est terminée, ils vont tous manger au restaurant local et ils se moquent évidemment de ceux qui sont là en disant « Vous voyez, j'étais venu avec une femme qu'il faisait passer pour son épouse, mais qui était en réalité la maîtresse d'un autre brandebourgeois. Et donc on vous a en fait tous, évidemment, tous arrêtés, on vous a tous, vous avez été en fait manipulés en fait par nous. » Et donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment une façon de faire. Donc la première, c'est je viens sur place. Je m'infiltre, vous voyez, dans le milieu local. Je repère, je fais parler. Voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est évidemment l'action armée. Donc ça, c'est la deuxième vague, c'est-à-dire que c'est l'action répressive. C'est les brandebourgeois, hein, donc c'est une compagnie hein, qui compte environ 150 à 200 hommes, qui est constituée donc, essentiellement de Français pour sa base, hein, donc en fait les simples soldats, même si au fil du temps, ces soldats vont prendre du galon. Hein, certains vont monter dans les grades, et l'encadrement. Alors, il y a aussi parmi les simples soldats des Allemands, mais qui parlent en général français, et dans l'encadrement, vous avez donc des Allemands, hein, les sous-officiers et les officiers, hein, puisque c'est un capitaine qui commande cette compagnie, hein, ces soldats, en fait, sont souvent des Allemands nés à l'étranger. Donc, ils parlent, certains, l'anglais, l'italien, et même, évidemment, le français. Donc ce sont des spécialistes, en fait, de l'infiltration. Alors ils apprennent, ils ont une école hein, qui les forme, et ils apprennent donc à manipuler les gens, à manipuler aussi des explosifs, à manipuler des armes, etc. Et leur exercice, on va dire, de leur examen, c'est d'aller dans un café pour essayer de faire parler les gens sur les sujets de la résistance. Et comme leur école est au départ, elle est aux Aubonnes, donc qui est dans les Pyrénées, c'est aussi d'infiltrer les réseaux de passeurs du sud de la France hein, pour essayer de les faire tomber. Vous voyez, donc c'est vraiment des personnes qui sont capables de s'adapter. C'est des caméléons, en fait, hein, des sortes de caméléons qui sont capables de s'adapter à toutes les situations et qui ont pour origine, pour la plupart, donc ce sont souvent des gens d'extrême droite, hein, évidemment, hein, beaucoup du Parti populaire français, hein, le PPF de Dorviot, qui est un parti ultra-collaborationniste. Hein, on n'imagine pas, on parle toujours de la milice, etc., qui est évidemment la partie visible, mais on n'imagine pas l'importance du Parti populaire français, qui non seulement à une action militante, active, hein, politique, mais aussi qui a un service de renseignement. Vous voyez, donc il fait de l'infiltration, etc. Et donc souvent, ces brandebourgeois viennent de ces milieux-là. Il y a très très peu de miliciens. Hein, il y en a quelques-uns, c'est plutôt rare. Hein, donc c'est plutôt, effectivement, des gens du Parti populaire français. Alors, ils sont donc d'abord déployés sur dans le sud-ouest, et puis on les amène dans le sud-est. Hein, donc ils sont basés en gros dans le Gard et dans le Vaucluse. Donc ils ont pour nous deux sections qui sont à Cavaillon, hein, qui agissent dans le département, mais en fait, en réalité, ils sont un peu partout, ils sont disséminés. Et puis ils bougent beaucoup, hein, les soldats bougent beaucoup parce que, évidemment, quand ils commencent à être repérés, il faut les déplacer. Voilà, donc c'est assez compliqué de les suivre. Mais on connaît un peu leur implication grâce au Wachtmeister allemand, hein, qui distribuait le courrier et qui donc a décrit en fait où il amenait le courrier de ces voilà. Donc on a vraiment des localisations bien réparties sur le sud-est. Ces brandebourgeois, en fait, agissent soit à seul, soit à deux, soit, donc, comme dans le cas de Bannon, quand l'affaire a lieu, ils amènent une section. Donc une section, c'est entre 30 et 40 hommes, hein, donc qui viennent participer à l'action répressive. On a, alors pas dans le département, mais dans le Vaucluse, une action qu'on connaît bien, parce qu'on a l'ordre d'opération. Hein, le chef de cette opération a été abattu par des résistants quand il remontait en Allemagne. Et donc sur lui, on a trouvé cet ordre d'opération et on sait exactement comment ça se passait. Comme je le disais, il y a l'armée de terre, la Wehrmacht et l'AR, en fait, puisque la Wehrmacht, c'est l'ensemble, hein, armée de terre, armée de l'air et marine. Vous avez donc, évidemment, de la Gestapo, vous avez des brandebourgeois, des faits de gendarmes, etc. Et donc, on sait exactement qui fait quoi. Hein, les faits de gendarmes neutralisent le bureau de poste pour pas que les communications aient lieu. Mais les brandebourgeois, souvent, quand il y a des actions répressives, sont devant. Et ils sont déguisés comme en résistant. Hein, ils ont en général l'uniforme des chantiers de jeunesse, hein, puisque les Français avaient l'obligation, les jeunes Français avaient l'obligation de faire une sorte de service civique qui était les chantiers de jeunesse. Donc ils ont cet uniforme-là. Et donc, quand ils rencontrent des personnes, ils disent « Voilà, on est poursuivis par les Allemands, aidez-nous, etc. » Voilà, vous voyez, donc, et les gens se font très facilement abuser. Hein. Voilà. On a deux, quand même, brandebourgeois qui ont été arrêtés et exécutés. L'un et l'autre s'appellent Papias et Josset, ils ont été exécutés par le maquis fort de France. Alors, on connaît un peu leur itinéraire aussi. C'est les seuls, hein, qu'on ait vraiment, c'est les seuls qui n'ont pas échappé, en fait, à... On connaît un peu leur itinéraire parce que l'un des deux avait été repéré quand il tentait d'infiltrer des réseaux de mineurs, hein, donc du côté de Fort Calquier. Et il avait été repéré par les gendarmes qui avaient fait une perquisition dans sa chambre, en fait, et trouvé donc des armes. Vraisemblablement, donc ces deux, lui et un autre, ont été déplacés pour aller essayer d'infiltrer les maquis du côté de Barème, hein, donc le maquis Fort de France. En voulant infiltrer donc ce maquis, je pense qu'ils étaient suivis par les gendarmes qui ont sans doute informé le maquis Fort de France de leur présence. Et ils ont donc été arrêtés à Barème et montés à la Haute-Melle, hein, où se cachait ce maquis, ont été interrogés et ont été exécutés. Alors évidemment, on n'a pas de détails sur l'exécution. On ne sait pas où ils ont été enterrés. Ils sont quelque part, hein, dans les montagnes, dans les hauteurs. Mais le maquis, dans la salle qui a été ouverte à Barème, hein, qui est une salle de mémoire relative au maquis Fort de France, vous avez en fait les notes qui ont été prises lors de l'interrogatoire. Et donc on a vraiment là, on a vraiment... la méthodologie, hein, puisqu'ils parlent évidemment, la méthodologie, et ils racontent en fait qu'effectivement leur unité est basée à Cavaillon Et les résistants avaient même envisagé l'hypothèse, avec d'autres maquis, d'attaquer cette section, hein, qui était donc dans l'un des hôtels, c'est le Modern Hôtel, je crois, à Cavaillon, pour justement réduire ça. Ça ne s'est pas fait parce que c'est un peu compliqué à monter, hein, c'est une opération très très compliquée. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces Brandebourgeois, cette 8e compagnie Brandebourg, est vraiment le bras armé, hein, de la répression de la résistance. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on peut considérer qu'une grande partie des 300 résistants qui ont été abattus, tués avant le 6 juin 1944, donc avant le débarquement, on peut considérer qu'une grande partie est due justement à l'action, à l'activité de ces Brandebourgeois. Alors ces Brandebourgeois, on les trouve, comme je disais, dans les missions d'infiltration. On a par exemple, quand il s'agira de délivrer les Allemands qui ont été pris lors de l'attaque de la citadelle, hein, par les maquis, le maquis de Bayonne, eh bien, là encore, vous avez des Brandebourgeois qui viennent sur place avant même l'action pour essayer toujours, hein, d'avoir de l'information. Ils sont vraiment dans des missions. Et l'un des Brandebourgeois racontera plus tard, quand il sera jugé, qu'en fait, ils avaient un cahier dans leur section où ils notaient tout ce qu'ils savaient. Vous voyez, donc quand ils faisaient une mission, ben, ils faisaient une sorte de compte-rendu pour que tout le monde puisse aussi être informé de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu, de ce qui était susceptible de les intéresser. Voilà. Pour continuer sur ces Brandebourgeois, donc ces fameuses répressions, il faut aussi prendre en compte, alors c'est très très étonnant en fait, hein, qu'on les connaît, donc parce qu'ils ont été arrêtés après la guerre, certains, parce qu'ils ont été jugés, mais on les connaît aussi parce que, par exemple, quand ils sont à Bannon le 4 et 5 décembre, certains vont envoyer des courriers à leurs petits amis. Et donc, le receveur des postes a la bonne idée de relever les adresses, vous voyez, hein, des personnes qui sont sur les enveloppes. Alors, vous voyez, ils ont quand même une certaine, on peut dire, en fait, on a l'impression quand même qu'ils jouent une certaine impunité, enfin, qu'ils pensent jouer une certaine impunité parce qu'ils sont avec des Allemands et que quelquefois, ils ne prennent pas les précautions qui seraient normales, vous voyez, de prendre quand on fait de l'action armée. En même temps, en général, quand ils agissent à un endroit, après c'est terminé, ils ne reviennent plus. Donc finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà. Voilà. Alors, je parlais des Brandebourgeois, mais il n'y a pas que les Brandebourgeois. Hein, donc l'action, quand on parle de répression allemande, on pense à Gestapo. Hein, c'est vraiment la police qui fait peur, hein, on voit dans les films, hein, c'est l'image classique, hein, les hommes qui sortent avec des grands manteaux d'une traction avant de couleur noire, avec des fois des enjoliveurs de couleur jaune, voilà, et qui montent dans un appartement avec leur chapeau, hein, ils ont un chapeau évidemment, qui montent et qui frappent à la porte et qui évidemment disent police allemande en fait, hein, ils disent pas Gestapo, ils disent police allemande, avec un petit insigne, hein, qu'ils portent, hein, qui permet d'identifier, que les Brandebourgeois portent aussi. Hein, ils ont un petit insigne, une croix gammée en fait, hein, qui identifie qui leur permet de s'identifier quand ils sont arrêtés. Car je ne vous l'ai pas dit, mais l'un des Brandebourgeois qui a donc été exécuté avait été donc surveillé par les gendarmes. Même l'un avait été arrêté par les gendarmes, et quand il a été interrogé, il dit qu'il est français, etc. Et puis il voit que les choses se dégradent, donc il dit aux gendarmes qui l'interroge, il dit appelez le chef de la Gestapo et il attestera du fait que je suis un membre de l'armée allemande. Et donc c'est comme ça que ça se termine. Et donc on a vraiment, oui, le rapport qui a été envoyé au juge, hein, qui dit on a dû le libérer en raison de la demande des autorités allemandes. Vous voyez, donc on est sûr du fait, quoi. Alors je reviens sur la Gestapo à Digne. Elle a laissé un souvenir évidemment très noir, y compris d'ailleurs la villa qu'ils occupaient. Alors c'est pas la première. Ils étaient installés d'abord dans une autre villa, mais on a retenu la mémoire, le dernier endroit où ils ont été, où ils se sont installés, c'est la villa Marie-Louise. Alors la villa Marie-Louise, c'est une villa qui a été détruite depuis, qui était à côté de l'Ermitage. Alors l'Ermitage, c'était l'endroit où étaient les forces allemandes, hein, où était le commandement allemand. Hein, donc, et à la fin de la guerre, la commandant Tours. Voilà. Donc, en fait, il y avait un lieu un peu protégé, on va dire, hein, qui permettait donc, alors évidemment, la villa Marie-Louise, hein, elle se protégeait elle-même. Hein, il y avait des barbelés, etc. Et elle était gardée par des gendarmes français, car les Français étaient chargés de la sécurité des Allemands. Alors évidemment, les Gestapistes ne faisaient pas d'illusions. Ils ne faisaient pas d'illusions. Ils savaient très très bien que les Français renseignaient la résistance, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient qui rentrait, qui sortait, vous voyez. Donc les allées et venues, donc, aussi bien des Allemands, des Gestapistes, d'autres Allemands, mais aussi les Français qui venaient, étaient évidemment repérés par les gendarmes. Donc... il ne se faisait pas trop d'illusions là-dessus, mais il jouait aussi avec ça. Quelquefois, quand il voulait compromettre quelqu'un, il le montrait, vous voyez, avec eux. Vous voyez. C'était une façon aussi de mettre un peu de brouillard, on va dire, dans le renseignement, et puis aussi une façon de compromettre, de punir quelqu'un. Voilà. Alors, cette Gestapo, en fait, elle n'existe plus en réalité depuis 1939. Hein, il y a eu une grande réforme des systèmes de police et de renseignement allemand. Et en fait, c'est la SIPO-SD. Alors la SIPO-SD, c'est donc la police politique, hein, donc, qu'on appelait la Gestapo, hein, avant 39, enfin, jusqu'en 39, et la CRIPO, qui était la police criminelle. En fait, dans la Gestapo, vous avez à la fois... Enfin, dans la Gestapo, telle qu'on l'entend, hein. Donc dans la SIPO-SD, vous avez à la fois des Gestapistes, mais aussi des commissaires de police, des inspecteurs de police qui faisaient, hein, qui étaient spécialistes dans le crime, en fait. Et donc, ce qui explique aussi qu'en fait, les méthodes étaient différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient extrêmement violents, hein, qui torturaient ceux qu'ils arrêtaient, et on a plein de cas, hein, de témoignages à ce sujet. Alors, il faut aussi rendre compte que la torture était codifiée. Il y avait des règles. Alors ces règles, évidemment, évoluent au fil du temps. Et puis, vous avez toujours des sadiques, vous avez toujours... Hein, les brandebourgeois, quand ils arrêtaient quelqu'un, ils torturaient aussi, et ils n'appliquaient pas les règles qui étaient normalement les règles à suivre. Par exemple, il y avait une limite de 20 coups de bâton, vous voyez, on ne devait donner que 20 coups de bâton, pas plus. Voilà. Hein, donc il y avait, voilà. Donc il y avait ces règles, et puis il y avait ceux qui avaient des méthodes...
C'est quand même super sympa d'avoir des règles.
Oui, oui, alors ça paraît totalement incroyable, mais en fait, c'est vous savez, c'est l'ordre allemand, en fait. Hein, l'ordre allemand, il y a... on ne fait pas n'importe quoi. Alors, tout ça, évidemment, il faut relativiser, hein, le n'importe quoi. En réalité, certains faisaient n'importe quoi. Voilà. Et en particulier, donc, les brandebourgeois, dont on a l'impression qu'ils n'avaient aucune règle, hein, et qu'il n'y avait pas de limite, vous voyez, à la violence, etc. Puisque c'était, en fait, en gros, des Français qui torturaient des Français, quoi. Alors, cette CRIPO et cette Gestapo donc, forment, hein, donc, la police politique, en fait, hein, qui est pour le coup vraiment politique, puisque la branche 4, hein, de cette SIPO-SD était chargée de la répression de la résistance, des communistes et des juifs, hein, etc. Donc, évidemment, c'est leur mission principale. Alors, le siège régional... Alors, en fait, c'est assez compliqué au niveau de l'organisation. Vous aviez donc, en gros, dans tous les centres urbains importants, vous aviez des Gestapistes. Donc, à Digne, vous en aviez à Gap. Mais Gap dépendait directement de Marseille, alors que Digne dépendait de Nice, qui dépendait de Marseille. Vous voyez, donc c'était un peu... Ce qui fait que, quand, par exemple, il y a le débarquement... le 6 juin 1944, quand le chef de la Gestapo part avec ses soldats, enfin ses sbires, pour aller prendre ses ordres, il part direction Nice et il se fait d'ailleurs, il tombe dans une embuscade, il se fait tuer avec certains de ses hommes, il se fait tuer dans une embuscade qui est montée par les francs-tireurs et partisans, hein, donc au col de Touzor, hein, voilà. Donc, mais il ne va pas à Marseille, voilà. Oui, et Nice d'ailleurs d'une certaine manière, devient de plus en plus autonome par rapport à Marseille, même si le commandeur, hein, ce qui est le chef de la CIPOSD, est à Marseille. Voilà, donc on a aussi, il faut considérer que la Gestapo, c'est quelques hommes, et qu'elle est efficace parce qu'elle bénéficie de l'aide de Français. C'est tout l'intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas 4 ou 5 hommes qui peuvent changer le cours de la guerre. En revanche, 4 ou 5 hommes qui font du renseignement, qui créent des réseaux, qui retournent des gens. Hein, pensez que la moitié des informateurs allemands sont des résistants retournés. Soit par l'argent, soit par la violence, soit par la peur, soit par les pressions. Enfin, hein, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et donc... C'est grâce, en fait, à ces Français qui travaillent avec les Allemands que les Allemands peuvent être aussi efficaces. Parce qu'il faut se rendre compte que quand ils arrivent, hein, comme je le disais, en septembre 1943, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les routes, ils ne connaissent pas les lieux, ils ne connaissent pas, même si en réalité, ils ont déjà une antenne qui est déjà là, qui s'occupe en principe du travail des travailleurs volontaires en Allemagne, mais qui en réalité, hein, c'est l'OPA, hein, l'Office de placement allemand, qui en réalité fait du renseignement. Car toutes les organisations allemandes font du renseignement. C'est, hein, un historien les a comptés, il y en a plus de 100 qui font du renseignement, qui sert donc à connaître les gens, leur attitude politique et puis éventuellement organiser, hein, des actions répressives. Voilà. Alors, comme je le disais, donc, cette Gestapo bénéficie... Alors, il y a des chauffeurs, hein, par exemple, tout simplement. Il y a aussi des interprètes, hein, car il faut... là, pour le coup, ce sont des gens qui ne parlent pas forcément le français. Donc, il leur faut quelqu'un qui est capable de traduire de l'allemand au français. C'est pareil, d'ailleurs, pour la Kommandantur. Hein. La Kommandantur utilise les services d'un ancien professeur agrégé d'allemand, qui d'ailleurs a été exécuté à la Libération, les histoires sont des fois extraordinaires. Cet homme, avant 40, avait eu des sanctions disciplinaires contre lui parce qu'il il faisait du prosélytisme pour les Allemands, hein, donc avant la défaite, hein, de juin 40. Mais quand, évidemment, la défaite est arrivée, là, pour le coup, il reprend du poil de la bête, si vous me passez l'expression, et il va devenir l'interprète de ces Allemands. Alors, il n'est pas seulement interprète, il est aussi l'interface entre, entre le délégué à la propagande, hein, qui lui aussi va avoir quelques ennuis à la Libération, qui organise aussi, lui, des réseaux de renseignement au profit des Allemands. Donc, vous voyez, la Gestapo, c'est pas que des Français qui travaillent directement pour eux, c'est aussi des interfaces avec le PPF, hein, Parti Populaire Français, la milice, hein, depuis 1943, mais aussi, donc, ce délégué à la propagande, qui est en fait un fonctionnaire de Vichy, en fait, hein, mais qui, évidemment, est pro-allemand et qui favorise tout le renseignement. Alors, je disais, donc, chauffeur, interprète, qui participe, donc... Alors, il faut voir aussi que les interprètes, souvent, sont des Alsaciens, hein, puisque les Alsaciens, le plus souvent, parlent allemand. Vous avez peu de gens, quand même, dans le département qui parlent allemand. Vous avez des Alsaciens qui sont réfugiés, et donc qui sont de gré ou de force, quelquefois même volontaires, hein, on a tous les cas, en fait, hein, pour aider les Allemands, ou au contraire, donner des informations aux Allemands. Alors, vous avez un cas très connu, hein, donc un de ces Français, qui alsacien, d'origine alsacienne, qui est un ancien militaire et qui va, pour faire la preuve que justement notre délégué à la propagande est un informateur des Allemands, va réussir à sortir un papier que lui a fait transmettre à la Gestapo, hein, pour dénoncer en fait des résistants. C'est le seul papier qu'on a dans nos archives, puisque toutes les archives ont été détruites, en fait, hein, de ces organismes de répression. C'est le seul document qui atteste, en fait, effectivement, de l'activité de ce délégué à la propagande, hein, qui déclare, en fait, hein, vraiment, qui dénonce, hein, vraiment, des gens aux Allemands. Voilà. Donc, vous avez tous ces... voilà. Alors, je disais, ce professeur d'allemand s'appelait Pro, hein, Prost, Pro. Voilà. Un autre, d'ailleurs, qui participait à ce réseau d'enseignement, c'est Sicard, hein, qui, donc, vont être jugés par le tribunal populaire. Alors, le tribunal populaire, c'est une instance, c'est ce qu'on appelle, l'épuration sauvage. Hein, maintenant, on parle d'épuration extra-légale. Donc, c'est un tribunal qui s'est mis en place ad hoc, composé de résistants, et qui a jugé très très vite ceux qui étaient les collaborateurs les plus évidents pour tout le monde et qui ont été donc condamnés à mort et exécutés. Hein, puis après, on a eu un tribunal, le droit est revenu en force, hein, et donc on avait une cour de justice, hein, qui a été installée à Digne, qui a jugé des collaborateurs, et puis après, celle-ci a été supprimée et elle s'est déplacée à Aix. Il y en avait une à Aix et une autre à Marseille. Ce qui fait qu'on a jugé les gens accusés de collaboration dans ces deux parties. Voilà. Donc Sicard et Pro ont été exécutés le 23 août, hein, donc peu de temps après la libération, hein, du département. Voilà. J'ai parlé donc de la gendarmerie, voilà, mais je n'ai pas parlé de la milice. Alors, quand j'ai travaillé donc pour la première fois sur Vichy et les Juifs, j'ai rencontré un personnage. Hein, qui était en fait le chef du bureau de la police et des étrangers à la préfecture. Alors ce chef du bureau de la police et des étrangers, en fait, est un personnage tout à fait intéressant, qui donc s'occupait en fait de, en 42, d'identifier les Juifs, de savoir où ils habitaient, ils faisaient des listes, etc., en vue de la préparation des rafles, hein, qui concernent d'abord les Juifs étrangers, hein, ou les Juifs apatrides. Voilà, donc ce personnage, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un homme d'extrême droite, hein, qui était évidemment placé là. Alors, en fait, c'était un fonctionnaire, hein, tout simplement, qui avait une carrière, hein, qui était rédacteur, qui était devenu rédacteur-chef, chef du bureau, grâce aussi à certains préfets qui étaient quand même plutôt antisémites, plutôt très proche de Vichy, ce qui est assez logique, hein, quand on y réfléchit, et qui, évidemment, favorisait évidemment, hein, tout ce qui concernait les arrestations de Juifs, hein, et leur déportation in fine. Hein, et donc, voilà. Donc ce personnage qui s'appelait Barbarouk, qui n'était pas du tout du département, hein, il n'était pas originaire du département, je le dis pour tous ceux qui portent ce nom, hein, il était d'un département très, très, très différent. En fait, il est rentré dans les organisations militaires, d'anciens militaires créés par Vichy en 1940. Donc ça, il n'y a rien d'anormal, beaucoup l'ont fait. Hein, il est rentré après dans ce qu'on appelle le SOL, le service d'ordre légionnaire, qui, lui, dans cette organisation, était une composante, plus violente, plus d'extrême droite par rapport aux autres, hein, qui regroupaient autour de Pétain, vous savez, l'image de Pétain, le vainqueur de Verdun, l'homme providentiel, en fait, hein, celui qui allait sauver la France, qui allait la régénérer, certains y ont cru, hein, donc, mais lui, vraiment, est rentré comme un homme d'extrême droite. Voilà. Et donc, alors, son histoire est assez longue à raconter. Alors peut-être qu'on peut faire une petite pause pour que je reprenne sur notre Barbaroux, chef du bureau de la police et des étrangers à la préfecture à Digne-les-Bains.
Falling. keep falling, I'll find you. We're over a forest, there's millions of snowflakes.
Voilà, retour avec Histoire d'archives et Jean-Christophe Labadie.
Voilà, donc je parlais de la milice, hein, donc cette image très noire de la répression mais organisée cette fois-ci par Vichy, hein, donc une organisation qui est collaborationniste, antisémite, anticommuniste, qui donc a une action alors qui est peu visible dans le département, car les miliciens sont peu nombreux, ils sont à peine une centaine. Et dans cette milice, il faut distinguer en fait deux cas de figure. Vous avez donc la milice politique, hein, classique, où il y a d'ailleurs des femmes, hein, qui sont adhérentes à cette milice. Et puis vous avez ce qu'on appelle la frangarde, qui est le bras armé de la milice. C'est ce qu'on voit dans les reportages de l'époque, hein, les actualités, les documents qu'on voit aujourd'hui encore dans les documentaires. Donc ce sont ceux qui sont avec leur uniforme noir et avec le fameux gamma, hein, comme insigne. Voilà. Et alors je parlais de ce chef du bureau de la police des étrangers de la préfecture, hein, qui avait été installé par un préfet collaborationniste et vichiste, qui avec d'autres, hein, était l'une des figures principales de la milice dans le département. Alors il y avait le Barbaroux, il y avait aussi Viala, qui était en fait un dessinateur industriel, mais vous aviez aussi un autre milicien qu'on connaît grâce à un courrier qu'intercepté qui s'appelait Maurice Gianardi. Voilà, on a en réalité la liste des miliciens, c'est pas très compliqué à avoir, y compris celle des femmes. Mais ce qui est important, c'est que ces miliciens, donc ce Barbaroux et ce Viala, ont lié leur sort à un milicien encore plus important, qui est le capitaine Rebaud, hein, qui est un ancien militaire, qui fut le deuxième chef de la milice départementale et qui, lui, va impulser vraiment une action violente. Alors, dans le département, la milice donc est très discrète parce que elle risque beaucoup, hein, elle risque de se faire assassiner tout simplement par la résistance. Hein, donc elle se cache assez, elle se cache un peu, pardon. En revanche, ces fameux frangardes, alors c'est frangardes, il y a deux frangardes. Il y a la frangarde permanente, hein, donc des gens qui sont encasernés. Et puis il y a une frangarde volontaire, hein, comme donc des gens qui sont des sortes de réservistes, si vous voulez, d'une certaine manière, qui sont appelés à l'occasion d'action. Et c'est ce qui arrive pour Barbaroux et Viala, qui vont agir d'abord contre les maquis de Savoie. Alors évidemment, quand ils ont été arrêtés, qu'ils ont été jugés, ils ont minimisé leur action. En gros, ils n'ont pas nié le fait qu'ils étaient en Savoie, puisque de toute façon on a les ordres de mission, mais il raconte ne pas avoir participé aux actions répressives, hein, qu'on connaît très très bien, hein, contre ces maquis. Et puis ensuite, ce milicien suit donc Rebaud, hein, qui va devenir le responsable du maintien de l'ordre à Limoges, et donc ils vont agir contre alors, pour le coup, là, vous avez affaire à des réseaux de résistance et des maquis très importants, hein, puisque vous le savez, le Limousin, le Périgord, hein, qui est aussi dans leur ressort, grouille de maquis, hein. Alors maquis communistes beaucoup dans le Limousin, maquis de l'armée secrète en Périgord, en Dordogne, et donc ils vont aussi agir là. Et puis ensuite, ils vont monter à Paris. Et Rebaud va devenir un inspecteur général de la milice, et Barbaroux va devenir son secrétaire. Ils vont donc agir. Et on a, à ce moment-là, une lettre. Alors, Barbaroux, on a une lettre qu'il écrit à sa femme pour lui dire: tu ne risques rien si tu ne fais rien. La résistance, après le 6 juin, hein, évidemment, la résistance ne s'en prend pas aux femmes. Hein, voilà. Donc, surtout, tu restes tranquille. Voilà. Mais on a une lettre d'un autre milicien qui est Gianardi, qui va raconter en fait lui son activité. Alors lui, il est parti sur le front après le débarquement, il est parti lutter contre les Anglo-Américains qui ont débarqué. Vous voyez, donc déjà, vous voyez, il a une activité militaire. Alors lui aussi, c'est un ancien militaire. Et il raconte, en fait, dans un courrier qui a été intercepté, donc, hein, par le contrôle postal, hein, puisque, évidemment, les communications étaient contrôlées, hein, étaient surveillées, il raconte, en fait, toute sa foi en la Révolution nationale. Donc, hein, la Révolution nationale, c'est ce que Vichy a installé, et puis en la victoire de l'Allemagne. Alors on est dans un contexte très particulier, il y a le débarquement, il y a l'attentat contre Hitler, on est juste après, donc il raconte tout ça, mais il est persuadé, en fait, hein, comme beaucoup de ces extrémistes, il est persuadé de la victoire. Notre Barbaroux est à Paris, Il va fuir évidemment devant l'avancée allemande, anglo-américaine, et va donc aller en Allemagne. En Allemagne, alors il y a on va regrouper tous les Français pour créer ce qu'on appelle la fameuse division Charlemagne, qui va aller combattre sur le front russe. Alors le problème, c'est qu'il faut aussi avoir des aptitudes. Hein, il y a question d'âge, question d'aptitude. Apparemment, Barbaroux, alors, soit volontairement, soit parce qu'il n'a pas les aptitudes, ne va pas combattre dans cette division Charlemagne. En revanche, le capitaine Rebaud, hein, le chef de la milice du département, eh bien, lui va devenir l'un des chef d'un des deux régiments, vous voyez, pour donner l'importance de ces personnages, des deux régiments qui composent cette division Charlemagne. Il va d'ailleurs combattre contre les Russes, il va d'ailleurs être blessé, amputé, etc., mais il va s'en sortir. Quant à notre Barbaroux, avec ses autres camarades, lui va combattre, va être amené en Italie, et va combattre contre les partisans italiens. Il va être capturé ensuite. Quand il est capturé par les Américains, il est transféré en France et donc il est jugé par la cour, comme je le disais, la cour de justice d'Aix-en-Provence, hein, qui va le condamner comme pour des menées antinationales. Car ils ne sont pas considérés comme des militaires, en fait, hein, et donc ce sont des traîtres, hein, vraiment. Et donc, ils sont condamnés à des peines de prison, dégradation nationale, ils perdent tous leurs droits civiques pendant un certain temps, etc. Et puis, à la faveur, on va dire, de l'oubli, de la réconciliation, etc., il va bénéficier de remises de peine, comme beaucoup de ces personnages qui ont été capturés, et puis donc il va sortir assez vite, voilà. En tout état de cause, quand même, il va être évidemment exclu de la fonction publique, hein, c'est ça comme on peut l'imaginer. Voilà, donc vous voyez ces personnages comme ça qui ont lié leur sort, finalement, à leur idéologie. Il est vraisemblable, alors on n'a pas de courrier personnel, mais il est vraisemblable que cet homme a toujours été un homme d'extrême droite, hein, vraiment, et qu'il a pensé qu'avec Vichy, mais aussi avec les Allemands, eh bien, son idéologie allait s'imposer, vous voyez, et jusqu'au bout, il a cru à la victoire. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de la brutalité nazie, hein, quand je parlais de la Gestapo, des règles qui étaient en œuvre. Je racontais donc effectivement on utilisait la violence, que cette violence était codifiée, que certains aussi utilisaient des méthodes différentes. Hein. Je pense en particulier à ces inspecteurs ou ces commissaires de l'ancienne Kripo, hein, de la police criminelle, qui eux utilisaient des méthodes beaucoup plus classiques. Alors, la méthode la plus classique, vous savez, c'est d'affaiblir celui que vous avez interrogé, où il dort peu, il dort mal, il mange peu, hein, donc en fait on le rend vulnérable, et puis on l'interroge, et on l'épuise. Et c'est ainsi, souvent aussi, hein, que certains réussissent à obtenir des renseignements. Mais il y a quand même un personnage qui est très important dans cette Gestapo, c'est le dernier chef de la Gestapo. Alors le dernier chef de la Gestapo, il arrive, donc comme je disais, son prédécesseur a été tué le 6 juin dans une embuscade, hein, au col des Toutzor. Donc il arrive un peu dans un contexte très particulier, il vient de Nice. C'est l'un des, on dit alors que c'est l'un des plus, les plus dangereux, car lui parle très bien le français. En fait, c'est un ancien enseignant de lettres dans le civil, hein, avant la guerre. Il est enseignant de lettres et de français. Et donc, il est non seulement capable de parler français, mais il connaît bien aussi la psychologie des Français. Et c'est pour ça qu'il est redoutable, en fait. Hein, parce que d'abord, il peut communiquer directement, et surtout, il sait sur quel registre jouer, hein, pour essayer de retourner les gens. Cet homme va arriver dans le département. Alors, c'est pas une promotion, hein, parce qu'en réalité, il l'écrit lui-même, hein, quand il arrive, en fait, il est dans un contexte très difficile, puisque après le 6 juin 1944, les maquis se sont dévoilés, et qu'en fait, les Allemands sont très isolés dans le département, il y a très peu d'Allemands, en fait, hein, quelques centaines, tout au plus, donc ils sont très isolés, ils sont très vulnérables, et donc il arrive dans un contexte très particulier, où il dit, on tient tout juste les grandes routes, quoi, vraiment, hein, le reste, on ne peut pas se déplacer. Donc il vient parce qu'il a eu des problèmes avec le PPF, le Parti Populaire Français, quand il était donc à Nice. Apparemment, il a fait arrêter des membres du PPF Et donc ça s'est retourné contre lui, et donc il est en fait exclu d'une certaine manière, hein, même s'il devient chef de ce petit poste de Digne. Alors il arrive, donc, comme je le disais, donc courant juin 1944, et il va donc essayer évidemment de trouver l'information, et puis il faut se rappeler aussi que après le 6 juin, les Allemands vont mettre le paquet, hein, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des actions répressives très très violentes contre les maquis, ils vont faire des grandes opérations. Alors ces opérations, elles sont faites avec les forces dont ils disposent à Digne, hein, donc là, on appelle ça le bataillon de nettoyage, hein, donc nettoyage, son nom, voilà, c'est une traduction en fait, hein. Il y a aussi les feldgendarmes, en particulier ceux qui sont basés à Sisteron. Il y a beaucoup de feldgendarmes à Sisteron. Et puis, ils bénéficient aussi de l'aide d'autres forces allemandes qui sont dans d'autres départements, qui viennent appuyer hein, donc, toutes les actions répressives. Voilà. Vous avez donc tous ces moyens, ces auxiliaires français, ces bandes bourgeois, ces feldgendarmes qui vont donc agir dans des opérations très très lourdes, hein, vraiment, ils amènent des canons, ce sont des convois, alors ils sont obligés, hein, puisque autrement ils se font attaquer hein, quand ils sont isolés. Voilà, donc ils vont nettoyer. Alors pourquoi vont-ils nettoyer ? Ben parce que tout simplement, depuis l'opération Torche, hein, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, en fait, ils s'attendent à un débarquement sur la Provence. Et donc, comme évidemment, ils ont installé des défenses sur le littoral, il ne faut pas que derrière eux, il y ait des forces ennemies qui pourraient compromettre leur ravitaillement. Et donc, la raison principale de ce nettoyage, on l'a à peu près depuis février 1944, où il est bien dit dans une réunion qui réunit des gestapistes, hein, les chefs de la Gestapo de la région, qu'il faut en fait nettoyer tout ce qu'il y a derrière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur les communications. Car on est, vous savez, c'est assez simple les communications en fait. Vous avez la vallée du Rhône et puis vous avez la route Napoléon en fait, en gros. Hein. Voilà. Et donc les vallées du Rhône, c'est un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas concentrer toutes vos forces là, ce qui donnerait beau jeu à l'aviation alliée, hein, où tout serait concentré, donc ça serait très facile. Donc il faut aussi s'assurer hein, de la possibilité de circuler sur sur la route Napoléon, alors dans sa partie jusqu'à Grasse, mais aussi la partie évidemment niçoise. Hein, et donc c'est pour ça qu'on nettoie, et c'est pour ça qu'on y met le paquet. Voilà. Quand vous avez... voilà. Alors... Vous avez aussi, ça c'est une exception dans le département, et je vais terminer là-dessus, c'est le théâtre d'oraison, hein, ce qu'on appelle le théâtre d'oraison, c'est l'action des bandes bourgeois le 16 juillet 1944, c'est le seul cas en France où le comité départemental de la libération, qui est en fait l'instance politique de la résistance, hein, des chefs résistants, qui se fait arrêter, enfin, une grande partie se fait arrêter lors d'une opération menée par les bandes bourgeois. Alors les bandes bourgeois, comme je disais, se travestissent, ils se déguisent en résistants, ils vont faire croire hein, qu'ils vont libérer Oraison du joug allemand, hein, puisqu'il y a une petite garnison qui a été amenée exprès hein, d'ailleurs, qui en fait en réalité sont les geôliers de ceux que les bandes bourgeois déguisant en résistants arrêtent. Eh bien, vous avez comme ça une opération de grande envergure hein, qui montre bien toute la méthodologie de ces hommes qui voilà. Je termine donc sur Digne libéré, hein, le 19 août 1944. Mais ce serait peut-être l'occasion d'une autre rencontre entre nous. Voilà. Simplement pour vous dire que à la Javi, je vais parler d'un sujet aussi qui est très propre à cette région. Donc je vais évidemment parler de la répression allemande, mais je vais parler aussi de l'affaire des eaux chaudes. Alors les affaires des eaux chaudes, c'est une action répressive allemande de grande envergure qui a lieu le 30 juillet 1944 et qui a été apparemment guidée par un informateur, et toute la question à l'époque, enfin après la guerre, est de savoir qui donc a informé les Allemands de la présence de ce maquis.
Affaire à suivre. On va parler donc des animations ou des activités prévues pour les archives départementales. pardon.
Effectivement. Oui, les archives départementales proposent en fait un programme d'action culturelle. Alors, aux archives départementales, bien sûr, mais hors les murs également. Hein, nous essayons de proposer à la population basalpine un ensemble d'actions. Notamment, donc, comme disait M. Labadie, sa conférence qui se tiendra jeudi prochain, jeudi 16 février à 18h dans la salle des fêtes de la Javi, où il évoquera là aussi donc, la répression allemande et l'action de la 8e compagnie de Brandebourg, hein, pour ceux qui souhaitent davantage d'informations à ce sujet. Nous poursuivons avec nos lectures d'archives, hein, puisque nous avons depuis 10 ans déjà proposé des lectures d'archives. Donc nous poursuivons cette action. Et là, la prochaine lecture, donc, ce sont des lecteurs de la mobile compagnie, qui redonne vie en fait à des documents d'archives autour de thématiques. La prochaine sera autour de la transhumance en Haute-Provence au siècle dernier au Chaffaut Saint-Jurçon. Et ça sera le jeudi 9 mars à 18h30 à la salle du conseil municipal. Tout est entrée libre, bien sûr. Et enfin, pour terminer celle du mois de mars, il y aura une grande journée autour de la résistance, 1940 entrée en résistance. Donc il s'agit d'une conférence débat où la personnalité de Jean Moulin sera évoquée avec Cécile et Gilbert Benoît, ainsi que Monsieur de Gaulle, en fait, qui est un avocat au barreau d'Aix-en-Provence et neveu du général de Gaulle, qui parleront justement aussi du général de Gaulle et les deux de Gaulle écrivains. Le vendredi 10 mars 2023, là, par le coup, aux archives départementales, à 18h. Qui proposera donc une conférence débat avec une partie aussi où le public pourra échanger avec les communicants. Voilà pour les actions à venir aux archives et dans tout le département.
Voilà. Et donc on se retrouve quant à nous au mois de mars pour la suite d'Histoire d'archives, oui. Si on peut dire une suite.
Voilà, dans un mois,
dans
jour
un
pour
mois.
Jour.
Hein, jeudi 9 mars. Voilà. À 9h voilà. Sur Fréquence Mistral DIN 99.3. Merci.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà.